France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, et si on changeait un peu de logiciel pour parler des élections européennes? Si on arrêtait de raisonner en termes nationaux pour une institution qui est précisément multinationale? Si on oubliait un instant notre carcan politique tricolore pour voir comment fonctionne ce Parlement qui compte plus de 700 députés et 24 langues officielles? À cette semaine du scrutin, le 26 mai prochain, on va tenter ce soir de faire un peu de pédagogie sur cette élection, sur le Parlement lui-même, sa composition, son mode de fonctionnement et ses compétences. Car le Parlement européen est une institution qui ne nous est pas particulièrement familière ici en France, où l'on a tendance à zapper les parlementaires qui vont à Strasbourg et Bruxelles. On ne sait d'ailleurs pas toujours avec qui ils siègent, or c'est loin d'être un point de détail. On ne sait pas non plus toujours pourquoi ils votent, sans parler des doubles discours que l'on entend parfois entre Paris, Bruxelles et Strasbourg. À nos côtés ce soir pour évoquer tous ces aspects, 4 eurodéputés sortants qui ne se représentent pas. Le centriste Jean Arthuis, bonsoir à vous monsieur Arthuis.
Bonsoir.
Membre du groupe ADLE, groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux. On pourrait dire quoi, la République en marche ici en France. Le républicain Philippe Juvin, membre du PPE, le Parti populaire européen, bonsoir,
bonsoir
à vous. La communiste Marie-Christine Vergiat, bonsoir. Je ne vous entendais pas.
Je ne suis pas communiste, je suis front de gauche.
Front de gauche. Alors, qui siège?
J'ai aucun problème, mais je siège avec mes amis communistes.
Avec
mes
amis communistes. Et vous siégez, on peut dire, à la GUE, le groupe de la gauche unitaire européenne?
Tout à fait.
On peut dire ça. Au téléphone, depuis le plateau du Larzac, le vert José Bové. José Bové, vous êtes bien là?
Moi, je suis bien là.
Et vous pas êtes bien vert, on est d'accord. Et pour les joindre, le téléphone 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui d'André. Bonsoir André, on vous écoute.
Bonsoir, et moi je suis strasbourgeoise. Je vous appelle de Strasbourg, donc le Parlement européen. J'habite pas très loin en plus. Je les vois à l'œuvre depuis longtemps. J'ai deux questions qui sont un peu sarcastiques, mais je crois que des fois, il ne faut pas hésiter à la poser avec tout ce, à les poser avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Premièrement, à quoi sert un député européen, si ce n'est à s'assurer une jolie rente, enfin en tout cas une rente agréable pendant 5 ans, une espèce de garantie d'emploi pendant 5 ans, et des fois aussi à recaser des recalés du suffrage universel. Il y en a eu pas mal en 2014. Et la deuxième question, quels sont les avantages? Alors, avantages directs, il y a des avantages, des avantages matériels qui sont statutaires, donc ça, d'accord, ils existent, ils ne sont pas négligeables, mais aussi, quels peuvent être les avantages dont peuvent bénéficier des parlementaires auprès de certains lobbyistes? Et pour certains, c'est beaucoup plus grave, pour certains, cela permet de faire une très très belle carrière alors qu'on vient, somme toute, de pas grand-chose. L'exemple typique, c'est l'affreux monsieur Juncker, qui était un petit député luxembourgeois d'un pays qui a fait beaucoup de mal à l'Europe et qu'on a placé à la tête de la Commission européenne après monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, le prédécesseur, qui a atterri dans une très grande banque américaine en quittant la communauté européenne.
Quel réquisitoire, André. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Vous me dites que vous habitez Strasbourg. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un jour le Parlement européen? Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller observer ce qui s'y passait?
Plus d'une fois, puisque je connaissais un certain nombre de députés, principalement plutôt à droite, donc j'avais arrivé plus d'une fois d'être invité au restaurant du Parlement à déjeuner avec eux, et j'avoue que j'ai pas vraiment eu le sentiment de voir des gens éreintés par le travail.
Merci André pour cette entrée en matière. Nos invités vont vous répondre, Jean Arthuis, peut-être, pour
Moi, je réside dans ma circonscription du Grand Ouest, j'habite en Mayenne. Je quitte la Mayenne le lundi matin, je prends le train à Laval, je prends le métro à la gare Montparnasse, gare de l'Est si je vais à Strasbourg, gare du Nord si je vais à Bruxelles, et j'y reste jusqu'au jeudi après-midi pratiquement, traînant la valise et les serviettes. C'est pas une sinécure, hein. Et le vendredi et le samedi, on est dans la circonscription, à l'écoute des citoyens européens. On essaie de rendre compte de ce qu'on fait au Parlement européen. Parlement européen, on vote des lois européennes, qui s'appellent des directives, qui s'appellent des règlements. On vote un budget, on prépare un budget, et puis on peut lancer quelques opérations un peu originales. Je pense à des projets pilotes, par exemple, pour essayer d'innover et de répondre aux préoccupations des Européens.
Et il évoquait les avantages.
Alors les avantages, on a une indemnité qui est de l'ordre de 8500 euros par mois. On nous fait un prélèvement, une retenue à la source, qui fait que nous percevons 6700 euros par mois. On a une indemnité pour défraiement, frais professionnels, qui est de l'ordre de 4000 euros. On met à notre disposition des assistants parlementaires. Voilà, c'est le statut des parlementaires, parlementaires nationaux, parlementaires européens, et on a des contrats à durée déterminée. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on peut dégager. Donc, c'est un peu facile, cette espèce d'anti-parlementarisme violent. La question, c'est de savoir s'il y a une valeur ajoutée parlementaire. Et en quoi le Parlement répond aux préoccupations des Européens ? Est-ce qu'on est capable de faire une Europe qui soit une puissance mondiale et qui nous protège ?
Eh bien, on va en parler ce soir. Marie-Christine Vergéa, sur ce que disait André.
Je vais peut-être étonner les auditeurs, mais je suis en grande partie d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Arthuis. Et la question que je me pose toujours, moi, c'est pourquoi cette agressivité vis-à-vis du Parlement européen qu'on ne retrouve pas vis-à-vis du Parlement national. Si on compare les pouvoirs du Parlement européen avec les pouvoirs du Parlement national français, notamment, j'aurais tendance à dire que le Parlement européen a plus de pouvoirs, en réalité, notamment quand il y a une majorité pléthorique, comme il y en a une aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc oui, on vote des lois, ça s'appelle règlement direct. Alors, le grand truc, c'est qu'on n'a pas l'initiative législative. Mon Dieu, mais que font donc...
C'est la même chose, hein.
Oui, que font donc... Si, ils ont l'initiative législative. C'est moi qui parle ou c'est vous ?
Pardon, vous avez raison.
Messieurs, s'il vous plaît.
C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, je dis, l'initiative législative, ils l'ont au Parlement français. Mais si on n'a pas de majorité pour faire voter l'initiative législative, elle ne sert à rien. Donc c'est une façon de témoigner. Eh bien, nous aussi, on peut témoigner. On fait des rapports en permanence pour donner les orientations du Parlement européen. Moi, je suis pas souvent d'accord avec la majorité du Parlement européen, mais comme Monsieur Arthuis, j'arrive le lundi en début d'après-midi, je repars le lundi dans l'après-midi, voire en soirée, ça dépend de l'agenda.
Et, on précise peut-être à ce stade que ce sont, vous parlez là, des sessions plénières qui ont lieu à Strasbourg. Il y en a 12 par an, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
C'est une fois par mois à Strasbourg et 3 semaines à Bruxelles, en réalité, avec quelques semaines qui sont plus consacrées à la circonscription, mais on fait tous pareil. En week-end, à partir du vendredi, on est en circonscription.
Philippe Juvin.
Il y a un élément qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le Parlement européen sert à voter des lois européennes, directives ou règlements. Mais une fois qu'il les a votées, un peu comme l'Assemblée nationale le fait, la loi est aussi discutée dans une seconde chambre. En France, on a le Sénat. Eh bien, en Europe, on a le Conseil. C'est quelque chose que les gens ignorent absolument. Et le Conseil est formé de 28 personnes, un par État. Ce sont en général les ministres de chacun des États qui se réunissent et qui font le même travail que le Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils travaillent le texte, ils l'amendent, ils le modifient, ils le votent. Et à la fin du processus, le Parlement d'un côté, le Conseil de l'autre, se réunissent et essayent de se mettre d'accord sur un texte commun, exactement comme le font et l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a toutefois une différence, deux différences majeures. La première différence, c'est que quand l'Assemblée nationale en France n'est pas d'accord avec le Sénat, in fine, vous savez que c'est l'Assemblée nationale qui a le dessus. Chez nous, ce n'est pas pareil. Le Parlement d'un côté, le Conseil de l'autre ont le même poids. Et si nous ne sommes pas d'accord, il n'y a pas de loi européenne. Puis il y a un deuxième point qui est beaucoup plus fondamental, c'est que ne croyez pas ce qu'il y a dans les livres de droit. L'Assemblée nationale française ne fait pas la loi. L'Assemblée nationale française, elle, subit la loi. Il n'y a pas un seul exemple, depuis 1958, d'une loi qu'aurait voté le Parlement français, qui n'était pas une loi, qui était une loi dont ne voulait pas le gouvernement français. En fait, comment ça se passe en France ? Le gouvernement rédige un projet de loi et l'Assemblée nationale vote ce projet de loi. Au Parlement européen, et c'est ça la grande différence, comme mes deux collègues l'ont dit, le projet de loi qu'on nous propose, eh bien, il peut être voté par le Parlement en des termes très différents de ce qui nous a été proposé. En fait, le Parlement européen, c'est un vrai Parlement. Et si on est en démocratie en Europe, c'est parce qu'il y a un Parlement européen. Et la démocratie, ça permet de dire, d'être libre de parler et de dire n'importe quoi, y compris n'importe quoi, comme l'a dit cet auditeur.
Alors, vous êtes en train de défendre le Parlement européen. On n'oublie pas José Bové, il est sur le plateau du Larzac, mais il est au bout du fil. José Bové, vous partagez le point de vue de vos collègues ? Vous défendez l'institution, vous aussi ?
Ah, je suis tout à fait en accord avec mes trois collègues. Ce n'est pas étonnant, parce que je pense que ce qu'on vit au Parlement européen, d'abord, est trop méconnu, et que ça représente une véritable avancée en termes démocratiques. Je rappelle, et ça a été dit au début, il y a 751 députés actuellement, il y en aura 705 avec le départ de la Grande-Bretagne si elle sort, et 24 langues, mais surtout ce qui est tout à fait important, c'est que les citoyens européens votent tous de la même manière à la proportionnelle, ce qui veut dire que toutes les sensibilités politiques de l'Union européenne sont représentées et ensuite regroupées dans 8
avec des seuils quand même, hein, selon les États, qui ne sont pas les mêmes. En France, c'est 5%. Hein.
Il y a des États dans lesquels c'est 0.
Mais il y a des différences. Mais globalement, c'est quand même des élections à la proportionnelle. Et ça, je crois que c'est déjà fondamental. Et on se rend compte, et ça, je crois aussi que c'est une très grande différence avec les parlements nationaux, notamment avec le Parlement français, c'est qu'aucun groupe ne peut être majoritaire à lui seul. Et que donc, sur chaque thématique, sur chaque sujet, eh bien, il faut construire des accords pour aboutir à un texte qu'on défendra ensuite tous ensemble face aux États, donc, c'est-à-dire face au Conseil. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important à souligner, c'est qu'il y a une véritable construction démocratique par le débat dans le Parlement européen, chose qui n'existe pas malheureusement en France. Si on est dans la majorité, on applique ce que dit le gouvernement. Si on est dans l'opposition, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Mais en gros, point barre. Et c'est pour ça que être élu au Parlement européen, ça représente véritablement un pouvoir pour essayer de construire des avancées, que ce soit en termes écologiques, en termes sociaux ou en termes de relations internationales.
Merci beaucoup José Bové. On repart au standard. Marie nous appelle à son tour. Elle est à Lille. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Bienvenue.
Oui, merci. Écoutez, voilà. C'est-à-dire qu'on connaît assez bien l'échiquier politique français. Par contre, on ne sait pas trop en quel parti politique, comment sont représentés les partis politiques au niveau européen. On entend parfois parler du PPE, Parti Populaire Européen, mais les autres partis, les autres regroupements de partis au niveau du Parlement européen, on le connaît mal. Est-ce qu'on pourrait avoir des explications sur ce sujet?
Eh ben, on est là pour ça, Marie, il n'y a pas de problème. On va essayer de vous éclairer. Qui veut nous faire une petite leçon, Philippe Juvin?
Bien, madame, votre question est évidemment absolument fondamentale, parce que la démocratie nécessite que les députés soient organisés en groupes politiques. Et c'est comme à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des groupes politiques. Alors, il y a le groupe politique le plus représenté, c'est le Parti Populaire Européen, qui correspond grossièrement aux Républicains en France, à la CDU-CSU en Allemagne. Puis le deuxième...
Il peut aller assez à droite, hein, on fait juste une petite parenthèse, puisqu'il y a le cas Orban
dans
le PPE.
Il va des Républicains à Orban. Donc c'est ce qu'on appelle la droite de gouvernement. C'est Madame Merkel essentiellement aujourd'hui, hein, c'est quand même ça, le PPE. Ensuite, le deuxième grand groupe s'appelle les socialistes, socialistes et démocrates. Alors, ce sont tous les partis socialistes d'Europe. Et puis après, il y a des groupes politiques qui ont une grande importance. Pourquoi ? Parce que, et José Bové l'a bien dit, la grande différence avec l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de groupe majoritaire. Personne n'est capable d'écraser et d'obtenir un texte par lui seul. Quand vous allez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais c'était le cas sous les précédents gouvernements, il y a une majorité et La République En Marche fait la loi comme elle le veut, puisqu'elle a la majorité elle-même. C'était pareil du temps des socialistes, c'était pareil du temps de la droite. Là, ni le PPE, ni les socialistes n'ont la majorité à eux seuls, et donc ils doivent composer avec des groupes qui sont moins importants en nombre, mais très importants en matière de fabrique de la loi.
Alors, il y a le groupe, par exemple, dans lequel siège Jean Arthuis, hein, les libéraux.
L'ALDE, qui est, on va dire, les centristes. Alors, ça va du Modem, de l'UDI en France, à des centristes d'un type très particulier, quand même, beaucoup plus libéraux, selon la tradition française nordique. Évidemment, le groupe des Verts, José Bové est un de leurs représentants tout à fait prestigieux, là aussi avec des visions très différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Les Verts allemands, José Bové pourra le commenter bien entendu, sont très différents parfois de Verts français, on a des approches différentes. La gauche unitaire dans laquelle vous siégez est également un groupe important. Mais il y a aussi l'ECR, qui est un groupe composé par exemple, des conservateurs britanniques. On aurait pu attendre que les conservateurs britanniques fussent au PPE. En fait, ils ne le sont pas. Ils sont dans un groupe à part avec d'autres hommes politiques et femmes politiques qu'on peut qualifier de droit, dont le PiS, qui est le parti au pouvoir en Pologne et qui est à droite des représentants du PPE. Donc, tous ces gens-là, puis il y a les gens du Front National, qu'on ne voit pas beaucoup, qui sont dans un groupe à part et qui ne participent pas à la fabrique de la loi. Ce qui est fondamental, madame,
et
de comprendre,
FDD,
c'est que aucun des groupes politiques n'ayant la majorité, tout le monde doit travailler ensemble. Et si vous ne jouez pas à ça, eh bien vous n'existez pas et vous ne défendez pas les intérêts de votre pays ou de votre groupe politique. Et c'est une école d'humilité. Quand vous êtes en France, vous êtes soit dans les gentils, soit dans les méchants. Les gentils, c'est ceux qui ont la majorité, les méchants, c'est l'opposition. Et c'est très manichéen et c'est très réducteur intellectuellement. Dans l'Union européenne, on doit faire preuve d'humilité et travailler avec tout le monde. C'est une école d'intelligence qui fait qu'il n'y a pas ce que Montesquieu appelait la tyrannie de la majorité. Elle n'existe pas. Et ça, c'est vrai qu'en France, on ne le comprend pas, malheureusement.
Et c'est malheureusement. Vrai que quand on vous voit arriver de différents bords politiques, c'est assez surprenant de vous
voir.
Parce qu'on
travaille ensemble.
Voilà, c'est ça. Mais un petit mot, Marie-Christine Vergiat, sur comment on travaille avec des collègues qui viennent d'ailleurs, pas forcément la même culture, la même langue. Comment ça se passe?
Je crois que c'est ça la grande école du Parlement européen, c'est d'apprendre justement à travailler ensemble en ayant des cultures différentes, même à l'intérieur d'un même groupe. La façon de voir les choses dans le sud de l'Europe, on met souvent la France quand même assez proche du sud de l'Europe, en Allemagne, dans les pays scandinaves, maintenant dans les pays d'Europe centrale, il y a quand même des histoires qui sont très différentes. Et on voit très bien que peu à peu, les choses s'organisent et on arrive effectivement à travailler ensemble. On a beaucoup de chance au Parlement européen parce que sur toutes les grandes réunions, on a de l'interprétation qui nous permet de nous exprimer dans nos langues, ce qui est quand même...
Dans 24 langues différentes,
voilà,
c'est
24,
ça
hein. Il y a 28 États, tant que les Britanniques sont là, mais il y a 24 langues officielles. La Belgique, par exemple, est un pays francophone majoritairement.
Avec 552 combinaisons possibles au niveau de la traduction, ce qui est quand même spectaculaire et impressionnant. Jean Arthuis, peut-être un mot sur votre groupe, la LDE, qui aimerait bien peut-être devenir plus important à l'issue des élections. Emmanuel Macron le laisse entendre assez souvent, mais est-ce qu'il peut y avoir vraiment une
recomposition? Oiseau a dit exactement le contraire hier.
Est-ce qu'il peut y avoir une recomposition de ce Parlement?
Je fais l'hypothèse que c'est assez compliqué. Il y a une espèce de structuration en groupe, et j'observe que ces groupes sont quand même pas très homogènes.
Ils sont très hétérogènes, vous avez raison.
De moins en moins.
Et il s'agit de faire nombre.
Cela dépend des sujets, en fait.
Il y a 200 partis politiques représentés au Parlement européen. Et donc, il faut essayer de les regrouper en 8 groupes, pratiquement. Et au sein des groupes, c'est pas évident. Alors, on vit quand même depuis un certain nombre d'années dans une sorte de coalition entre le PPE et les sociaux-démocrates.
Qui se sont même arrangés pour présider à tour de rôle.
Il faut que vous expliquiez que les sociaux-démocrates sont les socialistes chez nous, parce que les gens ne vont pas tous se comprendre.
Donc les conservateurs et les socialistes ont passé un deal, et ils conviennent d'un certain nombre d'actions en commun, ils se mettent d'accord, et ça n'est pas toujours très simple pour les autres groupes. Alors ce qui pourrait se passer demain, c'est que peut-être le PPE est un effectif un peu moins nombreux, les sociaux-démocrates, les socialistes, eux aussi un peu moins nombreux, et que l'addition des deux ne fasse pas une majorité. À ce moment-là, on peut peut-être... C'est un Parlement qui est... C'est bien cette recherche permanente du compromis, mais il peut arriver que le compromis se fasse sur des bases consensuelles larges, mais que ça ne suscite pas un intérêt médiatique extraordinaire. C'est formidable d'être invité un soir au téléphone seul à France Inter, parce que on existe médiatiquement. Le problème du Parlement européen, c'est un peu un carmel médiatique. Et ce qui s'y passe n'est pas toujours facile à communiquer, parce que ça se passe dans un climat relativement de dialogue, de consensus ou d'humilité, où chacun fait un effort pour écouter l'autre, prendre en considération son point de vue. Donc ce qui pourrait se passer demain, c'est que on est à recomposer cette majorité. Mais attention, parce que au Parlement européen, on applique la loi d'Hondt, comme pour la proportionnelle. Donc, il vaut mieux avoir des groupes nombreux, parce que ça donne la possibilité d'accéder à des présidences. On fait ses courses, on achète des présidences, on achète des vice-présidences, on achète des rapports. Donc il y a aussi cette logique-là qui prévaut au sein de ce Parlement. Je pense que la situation va changer. Je pense qu'il risque d'y avoir un peu plus d'eurosceptiques. Et dans ces conditions, ceux qui croient en l'Europe seront peut-être invités à se rassembler pour aller de l'avant.
On repart au standard. Nicole nous appelle à son tour. Bonsoir Nicole.
Bonsoir à vous tous. Et bravo à France Inter pour l'ensemble de ces émissions.
Merci pour le merci.
Et voilà. Alors, avec l'hypothèse du Brexit, il n'y aura plus de députés anglais. Et au lieu de supprimer ces postes, on les a répartis entre les pays de l'Union économique, l'Union européenne. Je voudrais savoir pourquoi et de quel droit. Et cela, ce qui me gêne, c'est que c'est paradoxal parce que, comme cela implique une hausse de la participation financière pour ces nouveaux députés, en France, on veut réduire le nombre de députés pour faire des économies, on nous impose des politiques d'austérité, etc. Alors, je comprends pas.
Ah bon, on voilà. va vous répondre, Nicole. Merci beaucoup, Nicole. Marie-Christine Vergia.
En fait, on a, pour l'essentiel, on n'a pas redistribué les postes des Britanniques, puisqu'il y a, on, il y a
jusqu'à 27 sièges aujourd'hui, du Royaume-Uni.
751, demain 705. Mais il y a effectivement 27 sièges qui ont été répartis pour rétablir l'égalité proportionnelle de tous les pays face à.
Tendre vert.
On est à peu près là. Hein, c'est comme ça que la France, qui était un des pays les plus en retard par rapport à sa représentation, récupère 5 sièges dans cette nouvelle...
Et aura
79 députés. C'est plutôt un rétablissement de l'équilibre.
Et il y a 46 sièges qui sont réservés pour de futurs élargissements éventuels.
Parce que le traité fixe à 751 le nombre de parlementaires. Le seuil minimal, c'est 6. Donc un pays comme Malte, avec 400 000 habitants, a 6 députés. La France à 74 députés avec 67 millions d'habitants, on voit bien qu'il y a une sorte de déséquilibre. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas de députés britanniques dans la prochaine assemblée?
Ça, mystère et boule de gomme. Mais un dernier mot sur
Madame,
la
mystère et boule de gomme. Madame May a dit qu'elle était prête à organiser des élections aujourd'hui.
Donc. Il pourrait bien se faire que la semaine prochaine, on apprenne que les Britanniques demandent un allongement de la période transitoire. Et dans ces conditions...
Ça va être compliqué, hein.
Ça sera compliqué, comme vous dites.
Un dernier mot sur la composition du Parlement, puis après j'aimerais qu'on parle quand même de ses compétences, hein, de ses pouvoirs. Concernant la plus forte délégation, c'est l'Allemagne, sur la façon dont travaillent les Allemands, parce que j'ai cru comprendre qu'ils prennent la chose très au sérieux, ils sont très impliqués, et du coup ils ont beaucoup de pouvoir, Philippe Juvin,
C'est toute la différence entre les Allemands d'un côté et les autres de l'autre, et particulièrement les Français. Je vais vous donner un chiffre. Quand un député allemand entre au Parlement européen, en moyenne, il reste 3,5 mandats d'affilée au Parlement européen. Quand un député français entre au Parlement européen, il reste en moyenne 1,5 mandat. La conséquence, c'est quoi? C'est que les députés allemands maîtrisent le machin. Ils connaissent, ils savent comment ça marche. Moi, je suis arrivé député européen il y a 10 ans, j'ai été opérationnel au bout de 2-3 ans et complètement opérationnel au bout d'un mandat. Pourquoi ? Parce qu'il faut maîtriser la procédure. Et on voit bien toute la différence entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a compris que l'Europe était un véhicule de puissance dont elle pouvait profiter. La France, elle, considère que c'est quelque chose finalement dont on pourrait éventuellement se passer. Et ce qu'on dit souvent de l'Europe en France est évidemment faux. Et l'Europe est utilisée comme un bouc émissaire par tous les gouvernements qui se succèdent depuis maintenant des années, qui ne sont pas capables d'assumer les positions qu'ils prennent au Conseil et qui reviennent de Bruxelles avec un clin d'œil en expliquant « vous avez vu, on les a bien eus ». Le problème, c'est que « on », c'est nous aussi. Les Allemands, eux, ont une politique d'influence qu'ils ont mise au service de leur propre pays, ce que nous ne faisons pas nous. Et c'est un vrai sujet qui concerne les partis politiques français, que je ne trouve pas sérieux en matière européenne en général, qui concerne les journalistes. Je suis affligé de la méconnaissance abyssale d'un certain nombre de vos confrères, sauf ceux qui sont là-bas d'ailleurs, mais qui ont de grandes difficultés avec leur rédaction nationale qui souvent ne les prend pas au sérieux. Bref, la France n'est pas un pays sérieux en matière européenne et la France n'a pas compris que les choses se font en Europe, ce que les Allemands ont compris, y compris au Parlement.
Jean Arthuis.
Ce qui est vrai, Je suis frappé par le fait que les principaux groupes au Parlement sont présidés par des Allemands, que le secrétaire général du Parlement est allemand, que le secrétaire général de la Commission est allemand, que le secrétaire général du Service européen d'action extérieure est allemand. Ils sont partout. Ouais. Et il suffit pas de les dénoncer. C'est que nous avons de grands efforts à faire dans notre gouvernance publique.
Absolument.
Et l'implication des ministres. Un ministre de l'Environnement, par exemple, doit-il passer son temps en France pour essayer de dicter des règles particulières, alors qu'il risque de mettre en difficulté les acteurs économiques, agriculteurs ou industriels en imposant des normes que les autres pays n'ont pas? Donc il devrait passer tout son temps avec ses collègues allemands, avec ses collègues européens,
mais
pour essayer de faire appliquer
pareil,
les mêmes dispositions sur l'ensemble de l'Union européenne.
On va partir sur le plateau du Larzac parce que José Bové réclame la parole. Oui, José Bové, on vous écoute.
Oui, je crois que ce qui est important à signaler sur la différence aussi entre l'Allemagne et la France par rapport à la question européenne. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est assez peu soulevé. Au cours des conseils, quand Madame Merkel est présente, mais ses prédécesseurs, c'était la même chose, est présente au conseil, elle vient avec un mandat du Parlement allemand. C'est-à-dire que toutes les thématiques qui vont être abordées au Conseil ont été abordées au Parlement. Et donc, la position défendue par la chancelière allemande est une position qui a l'assentiment du Parlement. Ça change énormément. En France, il y a une véritable coupure, c'est-à-dire que le Parlement national n'est absolument pas amené à débattre de ce que le Premier ministre ou le Président de la République, en général c'est le Président de la République, discute quand il est dans la réunion du Conseil. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et qui montre bien qu'il y a une différence d'approche sur la façon de considérer l'Europe, le Conseil, mais aussi le Parlement. Donc moi, je crois que sur ces questions-là, eh bien, en France, on devrait changer de façon de travailler de manière très claire pour que la question européenne soit centrale et qu'il y ait un débat systématique avec des votes à l'intérieur du Parlement français pour pouvoir donner un mandat. Sinon, eh bien, effectivement, on a très souvent vu au moment du Conseil les présidents français eh bien, ne pas forcément avoir de position sur tel ou tel sujet ou avoir une position personnelle. Quand Mme Merkel vient et qu'elle dit « voilà la position de l'Allemagne », elle s'appuie sur son Parlement. Et ça, malheureusement, elle ne le fait pas chez nous.
Voilà, il y a du boulot à faire, y compris du côté des journalistes, Philippe Julien, vous le disiez, mais je tiens quand même à préciser que sur France Inter, par exemple, il y a chaque mois un téléphone sonne qui se fait là-bas avec Stéphane Le Neuf, en direct du Parlement européen.
C'est ce que je disais, vous avez des gens de grande qualité là-bas.
Fallait le dire. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Catherine qui nous appelle de l'Isère. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bah oui, j'appelais. Bonsoir à tout le monde. Et en début d'émission, là, vous avez dit que les députés votaient des directives, donc ce ne sont pas des lois. Et je voulais savoir, parce que j'ai jamais compris si les pays membres sont obligés d'appliquer les directives ou si c'est au choix de chaque gouvernement.
Excellente question. Catherine, merci pour cette question, Philippe Juvin.
Excellente question. En fait, on vote des lois européennes qu'on n'a pas voulu baptiser loi parce que les États ont dit, quand on a créé l'Europe, non, les lois c'est national, donc on va trouver un autre nom. Et on a baptisé ça directive ou règlement. Alors, à votre question, est-ce que les pays européens sont obligés d'appliquer les lois européennes? La réponse, c'est oui. Mais il y a deux manières de l'appliquer. Si nous avons voté au Parlement et au Conseil, vous avez compris qu'il y a une deuxième chambre qui sont les États, qui est aussi importante que le Parlement européen, c'est très important. Si nous avons voté une directive, eh bien, le texte de la directive, une fois voté en Europe, va sur le bureau de toutes les assemblées nationales des 28 États qui doivent la retranscrire dans leur droit national, en réalité, avec une certaine liberté d'interprétation. Mais tout le monde l'applique. En revanche, si le texte que nous avons voté est un règlement, là, les 28 États n'ont pas d'autre solution que de traduire le texte dans leur langue et de l'injecter dans leur corpus législatif, dans leur loi, telle qu'elle. Donc oui, premièrement, on est obligé d'appliquer les lois, mais souvent avec des délais, tout simplement parce que quand on met des obligations aux États, eh bien, il faut que ces États aient le temps de se retourner. Deuxièmement, parfois les États, c'est le cas de la France qui est grande spécialiste mondiale de ça, surtranspose, c'est-à-dire quand l'Europe décide d'une norme, par exemple, eh bien la France la transpose cette norme dans son droit national, mais non contente d'avoir fait ce travail, la surtranspose et rajoute une norme supplémentaire. Ça, c'est typique de la France. Une petite et après, question... elle dit, regardez l'Europe quand même, il ne sait pas bien ce qu'ils ont fait.
Une petite question, puisque vous êtes tous eurodéputants, députés sortants et que vous avez travaillé sur certains de ces textes dont on n'a peut-être pas forcément beaucoup parlé ou dont on a parlé, je ne sais pas. Si vous deviez retenir un texte que vous avez voté, dont vous êtes fier, par exemple, Marie-Christine Vergiat, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, vous, dans votre travail de députée européenne? Quelque chose qui fera date pour vous?
Ah bah peut-être que...
Vous les laissez réfléchir.
Moi, je travaille je siège notamment à la Commission des libertés civiles. Donc, peut-être que dans les grands textes qui ont été votés au cours des 10 dernières années, il y a la loi dite PNR sur la protection des données, quand même. Reste à savoir comment elle va être appliquée, parce que moi, je suis assez inquiète de l'application aujourd'hui et de la façon dont on la contourne. Mais dans les 10 dernières années, du point de vue des droits et libertés, c'est sans doute celle-là qui m'a le plus marquée. Et celle-là, contrairement à d'autres, je l'ai votée.
Jean Arthuis, vous, qu'est-ce que vous retiendriez de ce que vous avez dit?
Alors d'abord, juste un mot peut-être, parce oui. que c'est vrai que le Parlement européen a un pouvoir législatif considérable. Mais il a un pouvoir budgétaire...
Tout petit.
Tout petit. Ouais.
Ça, c'est l'ancien ministre du budget,
à la limite du simulacre budgétaire. Et là, on est vraiment, comme le budget est pour l'essentiel financé par les États membres, parce que le Parlement européen, contrairement à tous les parlements qui ont été créés dans les grandes démocraties pour le vote du consentement à l'impôt, le Parlement européen ne vote pas l'impôt. Bon, ayant dit ça, moi, le projet qui m'a passionné, c'est un projet pilote. Parce que c'est la seule initiative qu'on puisse laisser aux parlementaires. Et j'ai voulu essayer de combiner Erasmus, qui donne la possibilité à des jeunes, des apprenants, de partir dans un autre pays de l'Union européenne et quelquefois au-delà, et l'apprentissage. Parce que Erasmus, c'était d'abord l'affaire des étudiants. Et les apprentis, quand ils partaient 15 jours, mais pas plus. Et donc je voudrais que les apprentis, eux aussi, partent en immersion dans les autres pays de l'Union européenne.
Et c'est du concret.
J'ai travaillé sur ce projet pilote qui commence à prendre corps maintenant.
Philippe Juvin, en deux mots, parce que
moi j'ai été le rapporteur d'un texte qu'on appelle sur les marchés publics. De quoi s'agit-il? C'est un peu technique, mais ça consiste à dire que dans les 28 pays de l'Union, il faut que les mêmes règles s'appliquent quand, par exemple, une commune veut acheter un bien ou un service. Tout simplement parce que si on veut que l'Europe fonctionne, il faut que quand une entreprise française vend son bien dans un autre pays de l'Union, il faut que les mêmes règles juridiques s'appliquent, à la fois pour protéger celui qui va acheter et celui qui vend. Et donc c'était une directive sur les marchés publics. Et juste pour vous parler d'influence française et d'influence allemande, moi quand j'étais rapporteur de cette loi, j'ai eu la visite des services de la chancelière qui sont venus m'expliquer les intérêts de l'Allemagne. Et j'attends toujours la visite des services de Matignon pour m'expliquer les intérêts français. La France est très absente.
On va dire un petit mot des lobbies avec Johan qui nous attend pour parler de ce sujet au standard du téléphone sonne. Il y a beaucoup de fiches à ce sujet et on va passer la parole à José Bové qui connaît bien la question. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bien écoutez, moi je suis né en Allemagne, j'ai grandi en France et j'ai fait ma formation professionnelle en Angleterre et je suis à fond pour l'Europe. N'en doutez pas. Maintenant, je vote à chaque fois. J'aimerais savoir, à chaque fois on entend parler des lobbies, qu'est-ce que nous, citoyens européens, on peut faire contre les lobbies?
Merci pour cette question, Johan. Excellente question. José Bové, vous êtes là?
Oui, bien sûr.
C'est une question pour vous, ça?
Ah, je pense aussi, mais je crois que je ne suis pas le seul concerné.
Non, non.
Je pense que, d'abord, il faut dire que, effectivement, les lobbies sont là où il y a des lieux de pouvoir, là où ils peuvent influencer. Donc, c'est tout à fait logique qu'à Bruxelles... autour du Parlement européen, il y a des bureaux de lobbying et d'avocats spécialisés, vraiment à tous les coins de rue. Donc à Bruxelles ils sont, mais à Paris ils sont là aussi, comme dans toutes les capitales. Le Parlement européen, au moins, a essayé de mettre en place, depuis assez longtemps, au moins, on ne veut pas dire un dictionnaire, mais une liste des lobbies, pour qu'ils soient obligés de se dire qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Il y a un lobby, par exemple, qui vient d'être interdit de rentrer dans le Parlement européen maintenant, c'était Monsanto Bayer, parce qu'ils ont refusé de répondre sur le glyphosate à une invitation à discuter avec le Parlement européen. Chose qu'ils n'auraient jamais pu faire aux États-Unis face au Congrès. Eh bien, le Parlement européen a dit, puisque c'est ça, ben vous ne mettrez plus les pieds et vous ne participerez plus à des discussions, à des invitations dans le sein du Parlement européen. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on aille maintenant encore plus loin dans la transcription des débats au Parlement européen. Ça se fait, les parlementaires européens doivent, et il faudrait que ça devienne plus contraignant maintenant, dire clairement ce qu'ils font quand ils rencontrent des lobbyistes et qu'il y a un compte-rendu, chose qui existe déjà en partie pour le Parlement européen, mais qui n'existe pas du tout, par exemple, au Conseil. Là, au Conseil, les lobbies n'ont absolument pas, peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, et on n'en sait à peu près jamais rien, comme quand ils vont voir la Commission.
Mais Johan demandait pour les citoyens, José Bové, que peut faire le citoyen, Johan ?
Pour les citoyens, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'on se rend compte que souvent, des textes ont été amenés et où, sous la pression des lobbies, on l'a vu dans les médicaments, on l'a vu dans la chimie, on l'a vu pour les pesticides, et par exemple, dans ces cas-là, souvent les citoyens se retrouvent confrontés avec des textes qui vont complètement à l'encontre de leurs intérêts, notamment de leur santé ou de l'environnement, et ça crée des véritables problèmes. Eh bien, le citoyen peut saisir une commission du Parlement européen qui s'appelle la commission des pétitions pour critiquer une réglementation qui n'est pas appliquée dans un pays, par exemple sur les normes environnementales, parce que par exemple, eh bien en France, le lobby des pesticides a tout fait pour effectivement échapper à la législation européenne.
Eh bien, donc il y a une solution. Il y a cette commission à saisir. J'accélère un peu, José Bové.
Pardon ?
J'accélère un petit peu parce qu'il est 57 et ça va se terminer dans 2 minutes. Voilà. Merci beaucoup, José Bové.
Robin a dit qu'il fallait que la France change sa législation.
Merci mille fois. Marie-Christine Verger, vous vouliez ajouter un petit mot ?
Je crois que certains citoyens s'emparent de plus en plus de cette question grâce à Internet, oserais-je dire. Et on a de plus en plus du lobby citoyen, si je puis dire. On l'a vu avec la pêche électrique, par exemple. On recevait des dizaines de mails sur nos bureaux. On l'a vu de façon un peu extravagante avec la directive copyright, avec les deux. Donc je pense qu'il faut que les citoyens s'emparent de la question européenne et donnent leur mot, donnent leur avis.
Une toute dernière question qui arrive sur l'appli France Inter, question de Gilles. Pourquoi Strasbourg et Bruxelles pour le Parlement ? Est-ce que ce n'est pas un immense gaspillage ? En une minute, j'ai peur qu'on n'y arrive pas, mais quand même, peut-être un mot, Philippe Juvin.
C'est symbolique. Strasbourg, c'est la symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Moi, je crois que c'est indispensable qu'on ait ces deux sites. Et d'ailleurs, l'influence française, c'est aussi d'avoir un site du Parlement en France. Écoutez, sur le Parlement européen, puisqu'il faut conclure, moi, je crois que l'Europe et le Parlement européen sont évidemment moins efficaces qu'on le voudrait. Mais en fait, ils le sont beaucoup plus efficaces qu'on ne le dit habituellement, et particulièrement en France.
Ça sera donc le mot de la fin pour vous, Philippe Juvin, pour vous, Jean Arthuis.
Ce que je trouve très insupportable, c'est qu'on fait le procès de l'Europe, on lui reproche une forme d'impuissance, on lui reproche de ne pas faire ce que les États membres l'empêchent de faire.
Tout à fait.
Ce qui est pour le moins paradoxal.
C'est tout à fait vrai.
Les États ne lâchent rien. L'Europe reste une addition d'égoïsmes nationaux, et ça ne peut pas durer. Il y a aujourd'hui, du fait de la mondialisation, le constat que certains biens communs européens ne peuvent plus être assumés par les États membres, et que si on veut retrouver notre autonomie stratégique, il faut la gérer au plan européen.
Ce sera le mot de la fin. Il faut ne pas s'intéresser qu'à la capitale de la Belgique, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans toutes les capitales, par les gouvernements nationaux, parce que Bruxelles, c'est aussi la somme de tous les États.
Merci beaucoup Marie-Christine Vergia, Philippe Juvin, merci à vous, Jean Arthuis, merci à vous et merci aussi à José Bové et à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce téléphone sonne. Merci à Pierre Collat qui a réceptionné vos mails, merci aux standardistes et aux techniciens qui étaient derrière la vitre.